On est dans une série depuis la semaine dernière. Est-ce que quelqu'un se rappelle du sujet de notre série? Waouh, vous êtes bons. On est bien. Si déjà vous vous rappelez du sujet, c'est une bonne chose. Et aujourd'hui, donc, c'est moi qui ai l'honneur et le privilège de vous apporter un message qui m'a cassé la tête. Je dis casser la tête parce que j'ai dû beaucoup, beaucoup réfléchir. Plus que d'habitude pour ce message, j'ai bien été aidé, mais j'ai beaucoup réfléchi. C'est un message que... Voilà, je vais l'introduire après. Mais je voudrais qu'on prie pour que vraiment on puisse entendre ce que le Seigneur veut nous dire ce matin en particulier. D'accord ? Raymond et Josiane ne sont pas là. La dernière fois, je les ai annoncés à Durenbach. Ils n'y étaient pas. Ils étaient en fait à Chalon. Raymond était à Chalon en tout cas. Mais cette semaine-là, ils sont donc tout ce week-end en fait à Saint-Dié, voilà, merci. À Saint-Dié avec Serge Herbrecht. Vous connaissez peut-être l'église Le Phare là-bas. Et donc ils font tout un week-end, ils sont en bénédiction là-bas. Donc ils vous saluent, cette fois non pas de Durenbach, mais de Saint-Dié. Ça va ? Ça roule ? Voilà, on va prier simplement. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Je te prie, Seigneur, de venir asseoir les vérités de ta parole dans nos cœurs, Seigneur. Afin, Seigneur, que nous sachions qui tu es, Seigneur. Afin, Seigneur, que nous te reconnaissions, Seigneur. Afin que nous te comprenions, Seigneur. Mais surtout, Seigneur, que nous te connaissions. Que nous te connaissions, toi, le seul vrai Dieu, Seigneur. Afin que nous soyons en relation avec toi. Que ça ne soit pas juste notre intelligence, Seigneur, qui va nous faire vivre et comprendre et venir à l'église et avoir une vie religieuse, Seigneur. Mais que ça soit notre intimité, Seigneur, qui soit impactée, Seigneur, par la parole, Seigneur. Que notre relation soit plus profonde, Seigneur. Qu'on vienne, Seigneur, et qu'effectivement, Seigneur, chaque jour, Seigneur, nous les passions dans ta présence, Seigneur. Chaque jour, Seigneur, nous te recherchions, Seigneur, dans la prière. Chaque jour, chaque instant, Seigneur, nous apprenions à mieux te connaître. Toi, le seul vrai Dieu que l'on veut honorer avec toute notre vie. Sois béni, sois loué. Amen. Amen. Cool. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'arrête sur la personne de Jésus pendant 8 semaines jusqu'à Pâques ? Parce qu'on l'aime, c'est une bonne raison. C'est important de le connaître, c'est une très bonne raison aussi. Mais on s'arrête aussi pour cette raison-là. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 3, 36 nous dit ceci. Donc si on connaît le Christ, si on connaît le Fils de Dieu, on a la vie éternelle. Est-ce que ce n'est pas un enjeu important de connaître Jésus-Christ ? Non ? C'est la vie éternelle qui en dépend. Donc c'est pour ça qu'on a décidé, et encore on pourrait dire, on va 8 semaines, certains vont me dire, ah, il faudrait faire tout le temps. Oui, c'est vrai, tout le temps, et on prêche tout le temps Jésus-Christ. Amen. Mais on s'arrête 8 semaines pour aller en profondeur, pour essayer de mieux le comprendre, mieux essayer de le connaître. Et parce que notre destinée, tout simplement, elle est en jeu. Vous savez, aujourd'hui, une des choses qui est le plus débattue dans le monde, c'est l'identité de Jésus. Pour les témoins de Jéhovah, Jésus, c'est une création de Dieu. Ça n'est pas Dieu, c'est une création de Dieu. Pour les Mormons, c'est le frère de Satan. Pour les musulmans, c'est un éminent prophète. Pour les libéraux, c'est un bon enseignant moral. Mais pour nous, chrétiens, Jésus, c'est Dieu incarné. Et ça fait toute la différence. Et j'aimerais ce matin qu'on s'arrête sur cet aspect. Vous remarquerez juste qu'aucun d'eux n'ignore l'existence de Jésus-Christ. Aucun d'eux. Ils disent tous qu'il a existé. Ils ont tous une perception qui est différente de qui il a été. Et on a des écrits qui sont en dehors de la Bible, donc pas juste la Bible, qui nous attestent de l'existence de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on peut l'affirmer. Que oui, il y a 2000 ans, sur cette terre a marché Jésus-Christ. Le problème, c'est la compréhension qu'on en a. Alors ce matin, on va faire ce qu'on appelle de la théologie. Là, j'en ai perdu déjà quelques-uns. Ça fait peur tout de suite, ces mots-là. Mais on va parler de l'identité de Jésus. Et pourquoi c'est important de parler de son identité ? Parce que regardez ce que va dire Paul dans 2 Corinthiens 11, 3, 4. « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève, on fait référence à la chute, vous connaissez l'histoire de la chute, hein, je ne vais pas la refaire, Par sa ruse, je crains que vos pensées, et il s'adresse donc à cette église, ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus. Donc vous voyez que c'était déjà à l'époque, c'était un gros problème de savoir qui était Jésus. Donc c'était vraiment quelque chose qui était un souci et il y avait déjà la nécessité d'établir qui il était réellement. Parce que sinon, il y avait déjà des fausses doctrines, des controverses, des choses qui venaient nous dérouter en fait de la réalité de qui est Jésus-Christ. Et les amis, je crois que c'est bon pour nous en tant qu'Église, pour toi en tant que chrétien d'être affermi et de savoir qui est Jésus-Christ. C'est important pour moi de savoir qui est Jésus-Christ. Ça va affermir notre foi. Donc quand on sera face à des gens qui vont nous mettre des petites questions pour essayer de nous faire douter, parce que ça arrive, hein. Je sais pas si vous avez déjà des personnes qui essayent de venir vous faire douter de votre foi, ben c'est bon qu'on soit affermi pour qu'on puisse répondre et argumenter en retour. Et c'est aussi bon et important parce que n'oublions pas, les amis, qu'à la fin des temps, et c'est un discours de Jésus que vous pourrez retrouver dans Matthieu 24, 25, il y en a plusieurs qui viendront et qui se déclareront être le Messie. C'est important pour nous d'être suffisamment équipés aujourd'hui pour savoir discerner qui il est. Amen, parce que sinon, demain, on risque de faire partie de ceux qui se font séduire par un autre Jésus. Cool ? Ça marche ? Cool. C.S. Lewis, qui connaît C.S. Lewis ? Ça va. C'est un auteur britannique. Ce qui est hyper cool avec C.S. Lewis, enfin, je ne sais pas si c'est hyper cool, mais ce qui est intéressant à noter en tout cas, c'est que c'est quelqu'un qui a grandi dans une famille religieuse pendant quelques années, et après, il s'est écarté de la foi. Parce que c'était quelqu'un qui réfléchissait beaucoup, qui était dans le raisonnement et tout. Et il s'est écarté de la foi pendant un temps, et il disait non, je ne comprends pas. Enfin, vraiment, il a cherché pendant des années. Et à un moment donné, il est revenu à la foi, mais au théisme. Donc, à la foi en un Dieu. Et c'est seulement 2 ans plus tard, après encore des recherches, beaucoup de conversations, entre autres avec un autre gars qui s'appelle Tolkien, qu'il a commencé et il a dit « Oh, maintenant, je crois vraiment en Jésus-Christ. » Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment étudié, qui a recherché les écrits, qui a lutté et qui s'est dit « Ouais, non, non. En fait, Jésus-Christ existe vraiment. Il est vraiment qui il est. » Regardez ce qu'il a écrit. « Vous devez choisir. » En parlant de Jésus. Soit cet homme était et est le Fils de Dieu, ou alors il s'agit d'un insensé, ou quelque chose de pire. Vous pouvez le considérer comme étant un idiot, vous pouvez lui cracher dessus et le tuer comme un démon, ou vous pouvez vous jeter à ses pieds et l'appeler Seigneur et Dieu. Mais il serait absurde de le traiter avec condescendance en disant qu'il fut un grand maître pour les hommes. Il ne nous a pas laissé ce choix. Ce n'était pas son intention. Comme c'est un peu complexe, et que je sais que vous êtes visuel, j'essaie de le formuler d'une autre manière. Ce que Jésus dit est. Soit ce que Jésus dit dans la parole est vrai ou c'est faux. Ça va ? Il n'y a pas d'entre les deux. On peut être à peu près jusque-là. Vrai ou faux. Si ce que Jésus dit est vrai, c'est donc le Seigneur. Et là, on a 2 choix. On l'accepte comme tel dans notre vie, on peut faire ce choix-là, ou alors on le rejette, on peut faire ce choix-là aussi. Ça va jusque-là ? Soit ce que Jésus dit est faux, et alors c'est soit un menteur, ou alors c'est un idiot. Ça choque un peu. Un menteur, pourquoi ? Parce qu'il ne dirait pas la vérité. Mais aussi un idiot, pourquoi ? Vous vous rendez compte ? D'aller jusqu'à mourir, souffrir le calvaire, aller sur la croix, juste pour une idéologie, il est vraiment idiot si il a fait ça, et que c'était juste un homme. Vous voyez ce que veut dire C.S. Lewis, vous comprenez ? Donc ce que C.S. Lewis dit, c'est que c'est intéressant et qu'il faut absolument qu'on regarde à qui est cet homme. Et s'il dit qui il est vraiment, alors on doit avoir une compréhension globale de qui il est, s'arrêter et vraiment comprendre qui il est. C'est pour ça qu'on va passer 8 semaines ensemble à vraiment étudier et à s'arrêter sur qui il est. Ça va ? Et je voudrais juste revenir sur le mot théologie que j'ai utilisé. Ça fait peur parce que tout de suite, on se dit « Ah, c'est de la connaissance, etc. » La théologie, pour moi, c'est une bonne chose, et je précise pour moi, c'est ce que je crois, c'est une bonne chose si elle est au service de notre foi. Si c'est justement pour se, juste pour se remplir de connaissances et savoir plein de choses à propos de Dieu ou de l'idée de Dieu, etc., alors c'est dommage, on passe vraiment à côté de l'essentiel. La théologie doit nous servir à alimenter notre foi. Et si elle n'est pas là pour ça, on passe à côté de l'essentiel. Mais c'est important qu'on n'ignore pas la théologie, parce qu'elle nous permet d'affermir notre foi. Et quand les questions viennent, quand les luttes viennent, on est affermi. Et là, on est bien ancré. Du coup, on comprend qui est Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est important qu'on travaille avec notre cerveau. Et je voudrais prendre juste une petite pause dans ce message pour remercier quelqu'un. Je voudrais remercier Francine, parce qu'elle m'a beaucoup aidé pour ce message. Elle a fait des recherches, elle m'a aidé, elle m'a donné... Oui, on peut l'applaudir. En gros, c'est elle qui a bossé et c'est moi qui présente. Quelqu'un dit pourquoi c'est pas elle qui prêche. Ça va venir, vous inquiétez pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est important qu'on puisse s'arrêter et réfléchir à ça. Je vous dis hein, honnêtement, ce message-là, c'est le plus dur que j'ai eu à écrire. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que je revoyais une idée, que j'écoutais un argument contraire, ce que j'ai dû écouter, j'ai dû lire des choses pour pouvoir avoir l'assurance de vous présenter ce que je crois aujourd'hui devant vous. Il a fallu que j'écoute aussi les arguments des musulmans, les arguments des uns et des autres. Il a fallu que je regarde un petit peu à l'hébreu. Moi qui ne parle pas l'hébreu, etc., j'ai dû rechercher, faire confiance, etc. Donc je vais vous présenter en 35 minutes ce que les gens ont fait pendant 2000 ans et ils se battent encore dessus. Vous allez dire, il est fou. C'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que je vais vous présenter sera très partiel. Donc d'avance, je vous demande de m'excuser si vous n'avez pas une réponse à toutes vos questions à la fin de mon message. Mais je vous demande juste de me faire confiance que j'ai fait les recherches et que je peux vous présenter. Vous pouvez venir me voir individuellement et on peut lutter encore ensemble avec le message. Mais encore plus, ce que je vous demande, c'est que quand vous partirez de ce message-là, c'est que vous-même, vous alliez étudier la parole. Que vous soyez comme ces chrétiens de Béret. Vous allez dire, tiens, là je lutte, j'ai envie de comprendre. Que vous-même, vous alliez vous enrichir. Faites des bonnes lectures. Discutez-en. Luttez avec la Bible. Allez plus loin. Afin que vous-même, vous soyez affermi et que vous ayez la révélation, pas ma révélation, votre révélation de qui est Dieu. Mais pourquoi je vais prêcher que Jésus est Dieu aujourd'hui? Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on croit ici à ECP. On croit que Jésus est Dieu. Vous savez, quand vous allez au restaurant, vous arrêtez et souvent juste dehors, vous avez de la façade, vous avez le menu, la carte, puis vous commencez à lire... etc. Et puis si vous commencez à lire et que c'est des mets asiatiques et que vous n'aimez pas du tout le restaurant asiatique, vous n'allez pas rentrer dedans. Pas vrai. Vous allez plutôt aller chercher une pizzeria ou un truc qui vous convient. Vous êtes comme ça ou vous rentrez dans un restaurant? Non? Ok. Non, je vérifie juste, comme je n'ai pas trop de retours. Moi, je fais ça en tout cas. Eh bien, à l'église, c'est un peu la même chose. C'est important de savoir où est-ce qu'on met les pieds. Qu'on puisse se renseigner, ben, tiens, si je vais aller dans cette communauté ou prendre part à la vie de cette communauté ou dire je vais adhérer à la vision de cette église, au projet de cette église, c'est important que vous sachiez quand même ce qu'on croit. Parce que si vous venez et puis vous dites ok, ben ça c'était bien, et puis là, mais pourquoi est-ce qu'ils prêchent jamais Jésus est ressuscité? Et puis quelques années après, vous rendez compte que le pasteur ne croit pas que Jésus est ressuscité. Ça peut arriver, hein. Il y a des églises où le pasteur ne croit pas que Jésus est ressuscité. Pas le cas ici, hein, je vous rassure. Mais il vaut peut-être mieux savoir avant coup. Hein. C'est pour ça que les églises ont ce qu'on appelle communément une confession de foi. C'est un papier qui rassemble, documente des idées sur qu'est-ce qu'on croit. Comme ça, quand vous regardez le menu dehors, vous dites « Ah, ok, bon là, ça va. Il croit au don du Saint-Esprit. Ok, moi j'y crois aussi. » Il croit à ça, il pense que c'est ça, etc. Il pense que c'est ça l'Église, ok. Tout ça, c'est à votre disposition sur le site internet de l'Église. Donc vous pouvez y aller, il n'y a rien de caché. Si jamais vous vous êtes dit où est-ce que je trouve ça, allez sur le site internet www.église-ecp.fr. On n'a pas mis toutes nos croyances, toutes nos convictions, on a mis les points doctrinaux. Mais on a mis ça pour que vous puissiez le savoir. Ça va? Je voulais juste le dire parce que des fois, c'est important qu'on puisse quand même se poser ces questions-là, et ça évite quelques luttes. Parce que si vous ne croyez pas au parler en langue, bah peut-être que vous n'allez pas venir à l'église ECP. Parce qu'ici, on croit que Dieu donne le parler en langue. Ou j'ai calmé tout. Mais après, on peut discuter. Pourquoi est-ce qu'on croit ça? C'est ce qu'on va faire ce matin sur le point Jésus est Dieu. Yes, ça roule. Voilà ce que dit notre confession de foi. Nous croyons en l'unité du seul Dieu vrai et vivant. Il est « Je suis » qui s'est révélé étant un en trois personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dieu est le créateur de toutes choses. Il est entièrement amour et complètement saint. Amen. Je vais vous faire travailler maintenant, juste un petit instant. Parce que quand j'ai cherché le titre du message, j'ai d'abord mis Jésus et Dieu, parce que j'ai pas trouvé, des fois je me triture à essayer de trouver un titre un peu fou ou un peu loufoque pour essayer de vous faire retenir. Mais là, j'ai pas trouvé un titre loufoque pour Jésus et Dieu. Donc je me suis dit, je vais juste dire ça, simplement. Jésus et Dieu, donc ça c'est mon titre. Mais si j'avais dû en trouver un autre, j'aurais fait ça. Ça veut dire quoi? Je suis, j'entends. Ah! Il est bon, lui. Là, j'avais un indice au cas où. Ictus. C'est pour le mettre autrement. Donc, j'aurais donné ce titre-là. Ictus. Jesus Christos Theou Huios Soter. Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur. Ictus, c'était le signe des premiers chrétiens. Donc dans les premiers siècles, ils ont créé ça pour se rencontrer. Ictus, ictos, c'était le poisson. Le poisson, si vous voulez. Et donc c'était pour ça qu'ils se rassemblaient. Je ne dis pas ça pour étaler ma science, parce que je ne le savais pas avant cette semaine, je l'ai étudié. Donc vous pouvez faire pareil. Mais je dis ça juste parce que c'est la doctrine que nous croyons. Nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est sauveur. Ici à ECP. Donc si vous ne croyez pas ça... Laissez-moi juste une chance de vous convaincre ce matin, et puis après, si vous voulez plus revenir, ça va. Mais ne partez pas tout de suite, ça ferait des ordres et tout, ce serait compliqué à gérer après. Moi, je vais me sentir déprimé, je vais arrêter le message, donc restez un peu. Ça marche? Donnez-moi une chance. Cool. Alors ce matin, je vais tenter de vous expliquer pourquoi nous, on croit que Jésus est Dieu, et pourquoi on croit que c'est important de croire ça. Non seulement on le croit, mais on pense que c'est vraiment important de croire ça. Ça va? Mais pour commencer, on va faire le vide. Je vous demande d'enlever tout ce que vous savez. Tout ce que vous savez au sujet de Dieu, aujourd'hui, tout ça. Donc, enlevez toute cette pensée, toutes ces messages que vous avez reçus, etc. Et faites un bon 2000 ans en arrière. Ça va jusque-là? La Trinité, vous ne savez même pas ce que c'est, vous n'avez pas entendu, vous ignorez, etc. Mais vous êtes là, vous êtes un juif assidu. Vous allez au temple régulièrement, vous honorez Dieu. Ça va jusque-là? Vous arrivez à vous mettre, il faut vous y mettre, parce que sinon vous n'allez pas bien vivre le message. D'accord? Donc vous êtes un juif, vous aimez Dieu. Vous croyez en lui et vous l'aimez vraiment, de tout votre cœur. Vous savez qu'il est le « je suis », vous êtes quelqu'un de pieux, vous pratiquez les commandements. Ça va, vous êtes avec moi, vous êtes là? Ouais. Vous ne croyez qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul Dieu. Il n'y en a pas d'autre. « Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad ». Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Il ne peut pas y en avoir un autre. Dans votre cœur, c'est ferme, c'est établi. Vous êtes Dieu et vous. Ça marche? Et là, vous êtes dans cette disposition-là. Et vous allez au temple, chaque année, vous participez à quelque chose qui s'appelle le grand pardon. Vous apportez votre sacrifice parce que vous dites, voilà, devant le Seigneur, j'ai fauté cette année. Et c'était la pratique qui se faisait. On demandait chaque année le pardon, et il fallait verser le sang. Le pardon de Dieu réclamé qu'il y ait du sang qui soit versé, du sang d'animal. Et donc vous pratiquez ça, vous vivez ça. Et pour vous, Dieu seul peut être adoré, seulement lui, pas un homme, personne d'autre, juste Dieu. Et si vous voyez ça, ça vous met en colère parce que vous gardez les commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Tu ne te feras point d'image taillée. tu ne te prosterneras point devant elle. Vous y êtes ? Vous êtes dans cette position ? Vous êtes un monothéiste. Et un beau jour, vous êtes fidèle à Dieu et il y a ce gars qui arrive qui s'appelle Jésus. Et il vient et il dit quelque chose du genre « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul, aucune personne ne vient au Père que par moi. » Là, vous vous dites, il est un peu gonflé ce mec, et un peu prétentieux. Moi, je vais au temple, chaque année, je fais ce qui est bon. Je vais en relation avec Dieu. Et lui, il dit qu'il n'y a que par lui qu'on peut aller au Père. Il se prend pour qui ce type ? Je vais aller le voir, lui dire un peu de quel bois je me chauffe. Moi, j'aurais fait ça, je ne sais pas vous, hein, si j'avais été un monothéiste, hein, dans cette époque-là, du moment. Okay. Vous êtes avec moi encore ? Ça roule. Et donc, Jésus, il vient, il amène cette tension pour vous. Puis, il y a un autre moment où vous êtes là, vous l'écoutez, vous êtes parce que vous voyez qu'il y a des choses quand même hyper bizarres qui se passent. Il guérit des malades. Il y a des démons qui sont chassés et tout, vous ne comprenez pas. Puis un beau jour, vous êtes là dans une maison avec plein d'autres gens, puis c'est tellement rempli qu'il y a des gens qui font descendre un paralytique par le toit de la maison. Il arrive, puis là, vous écoutez bien, vous dites, qu'est-ce qu'il va faire encore ce type ? Puis vous voyez Jésus et il fait, va, tu es guéri, il est guéri. Et après, il lui dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Et là, vous dites, faites comme les autres, comme moi. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner, à dire, mais qui est celui-ci qui profère des blasphèmes ? Parce que vous savez qu'il n'y a personne d'autre que Dieu qui peut pardonner les péchés. Vous dites, ce type-là, il dit qu'il pardonne les péchés ? Donc là, vous êtes en colère. Montrez-moi vos fesses. Vous êtes en colère ? Vous dites non, c'est pas possible. Et non seulement ça, ce type-là, il va de place en place, ce Jésus, et puis ça vous dérange. Parce qu'il laisse les gens l'adorer, alors qu'on est censé adorer Adonai, le seul Dieu. Regardez, ils entrèrent dans la maison, donc ça, c'est à la naissance de Jésus. Virent le petit enfant avec Marie, sa mère. On parle des rois mages, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent en fortune. Vous allez me dire, OK, Jésus, il laisse l'adorer, mais là, ils ont 2 ans. Il a même pas 2 ans, il vient de naître, on s'en fout. Donc c'est normal, il va rien faire. Mais regardez plus tard. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Jésus, il est en train de laisser des gens l'adorer. Vous vous rendez compte ce qu'il est en train de faire ? L'adoration va à Dieu seul. Encore une chose, pour eux, après l'avoir, elle apostrophe, c'est Jésus, avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Ça, c'est après la résurrection. Donc Jésus, qui est un maître, il laisse les gens à l'adorer lui. Vous imaginez ? Donc c'est normal que vous soyez confus parce que vous dites, non, Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad, je ne prie qu'un seul Dieu. Le seul. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc vous êtes en colère. Et en plus, vous savez qu'on ne doit pas adorer un autre Dieu selon les commandements. Et vous savez, pas encore, mais je vous le dis, puisque là, ce n'est plus dans votre situation, mais dans Apocalypse, on voit qu'il n'y a formellement aucune autre personne que Dieu qui doit être adorée. Regardez, Apocalypse 19, 9. Et l'ange me dit, donc il dit à Jean, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau, Jésus. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et Jean, il écrit, et je tombais à ses pieds pour l'adorer, l'ange. Mais il me dit, garde-toi de le faire. L'ange le reprend tout de suite, il lui dit, non, ne m'adore pas. Parce que l'ange, il sait que l'adoration va à Dieu seul. C'est important, les amis. Vous me dites, mais où est-ce qu'il est en train de venir, Matthieu ? Où est-ce qu'il y va ? Adorer un autre Dieu que Dieu relève de l'idolâtrie. Et vous le savez en tant que juif. Et vous ne voulez pas le pratiquer, vous ne voulez pas le faire. Alors, est-ce que vous êtes en colère contre Jésus à ce moment précis? Ouais? Non, tout le monde n'a pas joué le jeu, hein, j'ai vu. Donc, je comprends qu'il y ait une tension dans les Juifs. Je comprends que ça suscite une réflexion et se dire, mais ça vient complètement changer ma perception et ma compréhension de qui est Dieu, cette idée-là. Et donc, forcément, ils sont complètement chamboulés. Ils sont dans cette truc, ils sont un peu perdus, sans repère. Alors, si Jésus n'était pas Dieu, on peut se poser la question de pourquoi est-ce que Jésus les a-t-il laissés l'adorer? On peut se poser cette question-là. Revenez avec moi maintenant là où vous n'êtes plus un juif, etc. Revenez avec moi maintenant. Pourquoi à aucun moment Jésus il interdit à ceux qui le suivent de l'adorer? Si ce n'est qu'il est Dieu lui-même. Je sais que vous êtes convaincu qu'il est Dieu aujourd'hui. Mais je pense que c'est important qu'on fasse tout ce travail pour venir asseoir et affermir de savoir pourquoi on croit qu'il est Dieu aujourd'hui. Et regardez même, après, dans Actes 7, 59, on voit Étienne, vous savez, le premier martyr, qui se fait lapider. Donc on lui jette des pierres pour le tuer. Et regardez sa manière de prier. Et il lapidait Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Tout ça, les amis, je vous le dis pourquoi. J'ai utilisé des contre-arguments pour vous expliquer et vous montrer qu'en fait, Jésus est Dieu. C'est ce que l'on croit. Je vous donnerai encore quelques arguments après. Mais je voudrais aborder un aspect qu'on connaît bien aujourd'hui, qu'on a un peu du mal à comprendre intellectuellement. Et c'est encore un peu un mystère. Mais c'est le mystère de la Trinité. Ça va? C'est différent d'habitude, hein, c'est très théologique. Hein, je vous ai dit aujourd'hui, il faut avoir le cerveau sur on. J'essaye de le rendre accessible quand même. Hein. Je fais un bon travail, ça va? Merci. C'est elle qui me coach. Hein. La Trinité. Alors, ce qu'on entend, c'est trois en un, comme le shampoing. On fait ça, ou alors des fois, il y a l'idée de l'œuf, ou de l'eau, etc. C'est bien trop simpliste. Je pense qu'il faut mieux commencer par une définition. Et la définition que je peux vous proposer, la plus simple que j'ai pu lire, réfléchir et écouter, c'est Dieu est un en tant qu'être et trois en tant que personne. Ça va? D'autres versions vont dire Dieu est unique en trois personnes. C'est un Dieu unique en trois personnes. Moi, je préfère Dieu est un en tant qu'être, où vous pouvez mettre derrière substance ou essence, et trois en tant que personne. Mais comme je vous l'ai dit, puisque vous étiez un juif il y a quelques instants et que vous étiez troublé par Jésus, ça n'a pas été révélé comme ça, hyper rapidement. Il y avait matière vraiment à lutter. Pourquoi est-ce qu'on doute encore et qu'il y a toutes ces réflexions sur l'identité de Jésus aujourd'hui? Parce qu'il y a vraiment matière à réfléchir, à lutter avec les Écritures. Parce qu'à aucun moment, Jésus dit lui-même « Je suis Dieu ». À aucun moment, il le dit dans la parole. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a toutes ces luttes, etc. Et ces gens, il y a des gens qui sont rassemblés au cours des premiers siècles parce qu'il y avait un autre Jésus qui commençait à être prêché. Et ils ont commencé à réfléchir ensemble, de différents endroits, à essayer de comprendre, lutter avec les Écritures, etc. Et ils sont rassemblés dans un concile, donc c'est un espèce de grand conseil, ils étaient plus de 300 personnes, et ils seront trouvés à Nicée en 325, et ils ont écrit leur compréhension de qui est Dieu, de l'identité de Dieu. Et ils ont écrit ça. Et en fait, c'était encore tellement subtil qu'ils ont dû se retrouver même une centaine d'années après, en 451, à Chalcédoine, pour venir compléter leur idée de la Trinité, de qui était Dieu. C'est de là que nous, on tire cette doctrine, cette compréhension, à laquelle j'ai regardé pour m'assurer que je peux vous dire que je crois à la Trinité. Et ils se sont donc arrêtés et ils ont réfléchi. Maintenant, je voudrais demander à Sébastien de venir, à Luc de venir et à Jean-Yves de venir. Allez hop, on les applaudit. Ils sont surpris parce qu'ils ne s'y attendaient pas. Là, là, là. Ils sont beaux, non? Et puis ça amène un peu de dynamique, parce que là, je voyais que vous commenciez à vous endormir, et du coup, je me suis dit, je vais amener une autre illustration, ça va vous aider. Si je vous demande... À qui je vais faire le coup? Si je vous demande, Sébastien, c'est quoi? Le prend pas mal, hein, le prend pas mal. Un être humain, merci. Ouh, oui, c'est un être humain, je vous assure. Quelqu'un a su répondre. C'est un être humain. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Non, je rigole, c'est pas ça. C'est pour faire la blague. Mais si on vous demande ces trois personnes-là, ces trois gens, c'est quoi? Vous allez tous me dire, ce sont des êtres humains, ce sont des hommes. C'est leur essence, c'est leur nature, c'est ce qu'ils sont. Par contre, si je commence à vous demander c'est qui, vous allez me dire c'est Jean-Yves, vous allez me dire c'est un jeune homme, plus si jeune, valeureux, vaillant, toujours là pour servir. Si je vous demande c'est qui Sébastien, c'est un mari aimant, courageux, parce qu'il a plein d'enfants, rempli de compassion pour sa femme. Si je vous demande qui est Luc, vous allez dire c'est musclore en devenir. Vous allez dire c'est un homme de foi. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on parle du Dieu unique en trois personnes, on parle de l'essence de Dieu. L'essence de Dieu, c'est Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu, le Saint-Esprit. Les personnes, ils se manifestent de différentes manières. Qui ils sont? Le Saint-Esprit, le Fils et le Père. Ça vous va? C'est plus clair? Merci, on peut les applaudir. Donc oui, Sébastien est un être humain. Je confirme. Mais vous allez me dire, c'est d'où qu'on tire? Alors, je ne vais pas vous faire toute la Trinité, parce que sinon on est là jusqu'à pas d'heure, etc. Mais très rapidement, on le trouve déjà dans Genèse 1:1. Dieu, je passe tout ça, au commencement, Dieu, Elohim, créa les cieux et la terre. Ce qui est intéressant dans Elohim, c'est que c'est un pluriel. C'est Dieu au pluriel. Le verbe qui est après, il est au singulier. Ça veut dire que dès le commencement, Dieu était plusieurs. Ça fait écho aussi à ce qu'on trouve dans Jean 1, le prologue de Jean. J'y vais vite parce que sinon on va s'endormir. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était Dieu lui-même. Et là, on s'accorde à dire que c'était de Jésus dont il était question, la parole. Au commencement, il était avec Dieu, tout a été créé par lui, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Pourquoi est-ce qu'on pense que c'est Jésus? Parce que plus tard, dans Jean 1,14, on lit « Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique, envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. » Ce sont certains des versets qui nous font dire que Jésus-Christ était et est Dieu. Ça va jusque-là? Alors, je voudrais, pour affermir votre foi, parler de deux arguments qui sont contre la Trinité. Si Jésus est Dieu, alors comment se fait-il qu'il dit que le Père est plus grand que lui? C'est une bonne question, non? Ouais. Il le dit là dans Jean 14, 28, Jésus. Après, je suis le chemin, la vérité, la vie, il parle pas mal, et puis il dit, vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et c'est une bonne question. Un autre passage encore, où on peut lutter. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2, 5, 8. Je sais que là, vous allez le lire encore 5 fois ce passage, parce que moi, je l'ai lu 10 fois au moins pour essayer de le comprendre. Ce que Jésus est en train de dire, quand il parle que le Père est plus grand que moi, il n'est pas en train de dire qu'il est supérieur à moi dans le sens il est d'une autre nature que moi, d'une autre essence que moi. Il est en train de dire que dans la fonction, qui il est, dans son rôle, il est plus grand que moi. C'est un petit peu comme si vous allez dans une entreprise et que vous avez des salariés, des directeurs et le président de l'entreprise ou le chef fondateur sont tous des hommes et des femmes. Hein ? On va prendre les femmes. Allez, on va faire comme ça, on a la parité. On va prendre, c'est toutes des femmes. Ça sera plus simple aussi à comprendre. C'est toutes des femmes en nature. Mais qui est plus grand ? C'est le directeur de l'entreprise, le grand patron, non ? Pas vrai ? En rôle. C'est ce que Jésus est en train de dire. Et là, l'autre manière, pourquoi on le pense aussi de cette manière-là, c'est ce deuxième passage qui parle de forme de Dieu. Et en grec, là, le premier mot forme ici, c'est morphe. Morphe. J'ai dû faire du grec, j'ai dû étudier pour vous dire tout ça. Hein. Donc, j'étale pas ma science, mais j'ai dû l'étudier pour essayer de le comprendre et vous le redonner. Hein. Donc, morphe, ça veut dire une manifestation externe d'une réalité interne. Il est Dieu à l'intérieur et le manifeste d'une manière externe, en forme de Dieu. Et il y a un autre verset là, comme un simple homme, là il est question de schéma. Et schéma, c'est la forme qui change. C'est pour ça qu'il était Dieu, et c'est ce qu'il est, le Saint-Esprit est Dieu, Jésus est Dieu, le Père est Dieu, mais la manifestation extérieure, c'est la forme, le schéma qui a pris une autre forme. Ça va jusque-là ? Ouf ! Donc j'ai essayé de vous expliquer la Trinité. Si jamais vous avez encore un problème avec ça ou que vous n'êtes pas d'accord, venez me lapider, mais un peu plus tard. J'aimerais encore vivre avec ma femme un petit peu et tout. On pourra en réexpliquer. Ça marche jusque-là ? Le deuxième argument contre la Trinité que j'aimerais traiter avec vous, c'est un argument qui est retrouvé. Et alors ça, je ne le sais pas parce que je n'ai pas beaucoup d'amis musulmans. J'en ai même pas du tout, en fait, aujourd'hui. Mais c'est ce que j'ai lu en faisant mes recherches et en regardant. Un musulman, apparemment, peut-être Bastien peut me corriger si tu sais peut-être un peu plus. Les musulmans, en fait, ils disent « Ok, je veux bien croire en toi Jésus, mais alors trouve-moi dans la Bible où il est écrit texto. » Donc dans la Bible, ils disent, pour être honnête ou sympa, ils disent même pas dans leur bouquin ou dans un truc, ils te disent dans ta Bible à toi, trouve-moi où Jésus dit, je suis Dieu, adorez-moi. C'est une bonne question. Parce que si on croit ça, on devrait pouvoir leur montrer textuellement. Pas vrai ? Donc je pense que leur question, elle est sympa. Le problème, les amis, c'est que c'est écrit nulle part. Ah ouais, c'est écrit nulle part dans la Bible. Tel quel, c'est écrit nulle part. Je suis Dieu, Jésus n'a jamais ne le dit. Et là, vous êtes tous en train de lutter, de douter dans votre foi, pas vrai ? Là, je voulais vous affermir, et là, maintenant, vous êtes tous en train de lutter. Mais c'est bon, des fois, de douter pour pouvoir affermir les choses, parce que derrière, on va étudier. OK ? L'argument que j'aimerais donner, et que j'ai lu, et que je trouvais très sympa, Jefferson, il n'est pas là ce matin. Vous connaissez peut-être Jefferson ou pas. Mais si je demandais à Jefferson « D'où viens-tu » et qu'il me répond « Devine ». Je vais lui dire « Tu parles espagnol et d'Espagne ». Il va me dire « Raté ». Bon allez, je vais te donner des indices. Et il va me dire « Ma langue maternelle, d'accord, c'est l'espagnol. Je viens d'un pays du nord de l'Amérique du Sud. Okay ». Il était souvent sous le feu de l'actualité avec les FARC. Hein ? Radamel Falcao, c'est notre meilleur joueur de foot. Ok, comment ça va venir ? Le nom de la capitale, c'est Bogota. Il nous donne encore un indice. Le nom de mon pays est un dérivé du nom de Christopher Columbus. Et là, vous allez tous me dire, c'est là. Well done, vous êtes bon. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que dans la Bible, les arguments, les évidences, les preuves de la divinité de Jésus sont tellement nombreuses, les indices qui nous sont laissés sont si nombreux qu'on peut affirmer aujourd'hui que Jésus est Dieu. même s'il n'a pas écrit ou dit « Je suis Dieu ». Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, ignorer l'idée que Jésus est Dieu juste parce qu'il ne l'a pas écrit, ce n'est pas valide. Tous les arguments, tous les indices qui nous sont laissés nous montrent qu'il est Dieu. Ça va jusque-là ? Vous me suivez dans l'argument ? Dans la logique de réflexion ? Ça roule. Mario, si t'es perdu, hein, tu viens me voir après. Hein. En dehors du fait que Jésus a accepté d'être adoré, on a bien d'autres arguments. C'est ces indices-là qu'il nous a laissés. Je vais vous les donner, je ne vais même pas les afficher parce que le temps passe. Jésus a les attributs de Dieu. Il dit qu'il est éternel. On sait qu'il est éternel, on sait qu'il est omnipotent. J'ai les versets là, faites-moi confiance, venez les chercher après, hein, je vous les redonne, il n'y a pas de souci. Il est omniscient, ça veut dire qu'il sait tout. Omnipotent, ça veut dire qu'il peut tout faire. Omniscient, ça veut dire qu'il sait tout. Omniprésent, ça veut dire qu'il est en tout lieu, partout. Il est immuable, ça veut dire qu'il ne change pas. Il n'est pas comme nous les hommes, qui sautons d'humeur d'un côté à l'autre. Il est saint. Il est amour. Un autre indice qui nous est laissé en dehors des attributs de Dieu, c'est que Jésus était appelé Dieu lui-même. Retournez simplement dans Matthieu 1, 23, Emmanuel, Dieu avec nous. Par exemple, Jésus, il avait aussi les titres de Yahvé. Dans Ésaïe 10, 20, pour en donner qu'un, on l'appelle le Saint d'Israël. Dans Luc 2, 11, Sauveur et Seigneur. Et quand Thomas vient et reconnaît dans les mains de Jésus, verset, il va dire quoi ? Mon Seigneur et mon Dieu. Il y a tellement, tellement, tellement d'indices. La Bible, elle est remplie, remplie, remplie d'indices en faveur de la divinité de Dieu. On ne peut pas se tromper. En tout cas, c'est notre croyance. Si tu veux être affermi dans cette croyance, je t'encourage à chercher et aller au-delà de simplement ce que moi je viens de dire ce matin. Mais toi-même de faire tes recherches. Il y en a plein des allusions. Les prophéties de l'Ancien Testament qui ont été réalisées en Jésus-Christ. Il y en a énormément. Bref, je vais laisser tout ça. Je vais demander au groupe de louanges de revenir. Mais je ne voudrais pas conclure tout ce message en disant « C'est bien, ok, je crois ce que tu dis, que Jésus est Dieu. Je pense que tu m'as donné quelques preuves. Je vais aller chercher moi plus loin et comprendre d'autres preuves. » Mais pourquoi finalement c'est important de croire ça ? Pourquoi est-ce que c'est important de croire que Jésus était pleinement Dieu ? Ce n'est pas une bonne question ? J'aimerais vous laisser juste avec ces pensées. Parce que Jésus seul était un sacrifice parfait. Vous voyez, la réalité, c'est que notre péché nous a séparés de Dieu. À travers Adam, notre nature d'homme sans péché a été corrompue. Le péché est venu et du coup, de naissance, on est tous des pécheurs. C'est aussi ce que Romains va nous dire. Car tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est notre état. Il fallait que Dieu vienne ouvrir une voie lui-même sans péché. Une voie sans péché. Si Dieu, Jésus, avait incarné Jésus par un homme, alors la naissance, Jésus aurait été corrompu. Il y aurait eu le péché en Jésus. C'est pour ça qu'il y a la naissance virginale, elle est très importante pour nous. La naissance que Dieu s'est incarné à travers Jésus-Christ, pas à travers Adam, mais venu simplement concevoir en Marie. Pour nous, c'était important, parce que ça veut dire qu'il est sans péché, que Jésus est né sans péché. Et le fait qu'il soit né sans péché, c'était la seule solution pour qu'on ait un sacrifice éternel. Un agneau sans défaut et sans tache, le seul qui pouvait nous racheter pleinement et infiniment pour l'éternité. Quand Jean-Baptiste va voir Jésus qui arrive, il va dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Parce que quand vous étiez juif tout à l'heure, vous saviez que vous pouviez aller tous les ans au temple pour, à travers le sang, réclamer le pardon. Mais Jésus seul est venu sans péché. 2 Corinthiens 5, 21. « Lui qui ne connaissait pas le péché » a été fait péché, afin qu'en lui, nous soyons déclarés justice
de Dieu.
Il fallait un agneau sans défaut, sans tache. Donc il fallait que Jésus soit Dieu pour que nous, nous puissions avoir une relation avec Dieu. Et Jésus était pleinement Dieu. Mais pour vous embrouiller encore un peu plus, il fallait qu'il soit aussi pleinement homme. Je ne vais pas en parler, ça va être le sujet de nos deux prochains messages. C'est Raymond qui nous apportera ça, sur la nature du Fils de l'homme et l'humanité de Jésus-Christ, qui devait être pleinement homme. Pourquoi ? Parce que s'il n'était que Dieu, on va dire, ouais, il n'a rien à voir avec nous, il est séparé et tout. Il fallait que Jésus se fasse pleinement homme pour qu'on puisse s'associer à lui. Et c'est ça qu'on va voir les prochains dimanches. Et à travers la divinité de Jésus, notre union à Christ, là peut être notre salut éternel, seulement là. Parce qu'il fallait un Dieu infini qui était là dès le départ, afin que nous, nous puissions vivre l'éternité avec lui. Je n'ai pas le temps de m'arrêter, ça serait beaucoup trop long, mais je vous encourage à étudier ces choses-là. Et seul Dieu pouvait nous unir à lui-même. On n'a plus besoin d'autres médiateurs. Maintenant, la Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, Dieu lui-même. Il nous fallait que Jésus soit Dieu pour que nous, notre foi aujourd'hui de chrétiens, soit valide. S'il n'est pas Dieu, les amis, alors on n'est pas sauvé. C'est vrai, c'est une réalité. Si Jésus n'est pas Dieu, on n'est pas sauvé. Il ne pouvait pas être juste un homme glorifié. Il ne pouvait pas être juste un bon enseignant comme certains le croient. Il fallait que Jésus soit Dieu. Amen. 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 Amen.